ta munition.
On fait demi-tour?
Non, y a pas le temps.
Bon, il y a un mystère, je vous éclaircis.
Minute, ça va trop vite. On ralentit la cadence.
Dans deux minutes, elle va devenir une... Une zombie, pas un vélociraptor.
Au moindre geste un peu louche, vous prenez une balle.
Au congélo.
A besoin de vous faire un dessin.
Voilà, c'est le nouveau générique et j'en suis plutôt fier.
Bah, il y a de quoi, c'est vraiment réussi, hein. Franchement.
C'est très réussi. C'est un bon générique de confinement.
Oui, tout à fait.
Avec des musiques de confinement, tu auras reconnu quelques films dont on va parler aujourd'hui, d'ailleurs. Dont on va parler aujourd'hui dans une émission spéciale confinement.
Oui, où on va, en spécial confinement, on va parler de films. Un jour, peut-être que ça arrivera, mais sans doute. Une épidémie mondiale, un truc comme ça.
Voilà, c'est... Un truc d'anticipation.
Un truc d'anticipation.
Que beaucoup de gens pensent pas possible.
Comme le réchauffement climatique, un petit peu.
Voilà. C'est, oui, peut-être qu'un jour, on fera une émission sur le réchauffement climatique en plein cagnard.
Ouais.
Donc, épidémie au cinéma.
Épidémie au cinéma, puisque...
Et à la télévision, il y en a un petit peu aussi.
La télévision, il y en a un petit peu aussi. C'est comme un genre qui est très courant depuis pas si longtemps que ça. Il y avait quelques films d'épidémie depuis quasiment le début du cinéma. Mais c'est vraiment un genre très fréquent qu'on rencontre maintenant, notamment avec...
Plutôt des blocs, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être parce que tout le monde est en train de chier en son froc, je sais pas.
Alors, on n'a pas de film là-dessus, sur ce type d'épidémie-là. Mais on a des films sur des épidémies plutôt réalistes.
Oui, quelques-uns.
Quelques-uns. Et puis des pas mal de films sur des épidémies historiques aussi. Quelques-uns.
Quelques-uns.
Et puis des films sur des épidémies pas du tout historiques et puis pas du tout réalistes.
Non, en général.
Et là, pas mal beaucoup.
Pas mal beaucoup. Merci Sci-Fi et Netflix.
Entre autres.
Entre autres, ouais. Mais il y a quelques bons trucs quand même. Contrairement à. Ben, C'est un genre qui amène à parler de sujets qui sont quand même assez intéressants et puis qui est assez prenant en fait. Hein, parce qu'on s'y prend facilement. C'est. Par rapport à d'autres... Moi, perso, ça marche assez bien.
Ouais, bah souvent, quand je regarde ce genre de film aussi, je me dis, oh putain, heureusement que ça arrive pas. Enfin, c'est ce que je me disais jusqu'à il n'y a pas très longtemps.
Bah moi, un film dont tu as parlé tout à l'heure, c'est sans doute Contagion, que j'ai trouvé... Enfin, c'est complètement irréaliste, on n'y croit pas deux secondes.
C'est ça. Comme Alerte.
Alerte aussi.
Ouais. Voilà. Enfin, Alerte, on voit à quel point les frappes chirurgicales américaines sont efficaces.
Oui, oui, puis ça
on
m'a
reste
permis
de... médical.
Ça m'a permis de connaître la Daisy Cutter, la coupeuse de pâquerettes, la bombe conventionnelle la plus puissante du monde, qui est américaine, forcément.
Forcément. Voilà. C'est la même qu'ils mettent sur les astéroïdes quand ils veulent les dévier de la trajectoire, c'est ça?
C'est ça.
D'accord. Bon, et ben c'est parti. Et donc, je te propose effectivement peut-être un... Quelques films d'épidémie réalistes, justement. Allez, on commence par ça.
Oui.
Et j'avais envie de commencer par un film de 64, si tu es d'accord, qui s'appelle Le Masque de la Mort Rouge.
Que je ne connais pas.
Un film de Roger Corman.
Que je connais.
Ah, tu connais Roger Corman. Donc c'est effectivement un film de 64. Alors Roger Corman, on le présente plus, mais vite fait, on va en dire un mot. C'est un réalisateur qui a lancé les plus grands noms de la réalisation américaine contemporaine et qui a la capacité de faire des films en 3 jours en réutilisant la plupart du temps des décors d'autres films. La plupart du temps, c'est le gars qui rentabilise complètement le... Alors lui, pour le coup, l'industrie du cinéma avec lui, elle est rentable. Et donc, Le Masque de la Mort Rouge, c'est un film qui nous parle de la Mort Rouge, c'est ça, hein, c'est au Moyen-Âge, en Italie. Donc, on a un seigneur qui humilie des paysans et il les terrorise, il brûle leur maison. Et il va faire prisonnier une jeune femme qui s'appelle Francesca, qui va se retrouver avec son père et son petit ami emprisonné. Et alors que... le convoi qui les emmène en fait s'apprête à partir du château on a la révélation que la mort rouge est en train de s'abattre sur la région. Voilà. Bon, c'est, un, c'est une adaptation de, d'un roman d'Alan Edgar Poe. Le film est de 64. Pour le coup, il reste une des grandes références de Roger Corman en termes de réalisation. À voir quand on est cinéphile et qu'on a envie un petit peu de déterrer les trésors de, voilà, de ces années-là. En film historique, il y a aussi un film que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu as vu, c'est Black Death.
Ah, Black Death, c'était une très bonne surprise, ouais. Ouais.
Un film de Christopher Smith, un film de 2010 qui est assez récent en fait, hein, avec Sean Bean notamment, mais aussi avec Eddie Redmayne. Alors Sean Bean, on le connaît bien, hein, c'est le type qui comptabilise, je crois, lui tout seul, quasiment une mort par film.
Oui, mais a priori, Danny Trejo, il meurt plus que lui. Mais bon.
Ah, d'accord. Ouais.
Beaucoup plus.
Beaucoup plus.
Oui.
Et donc, Eddie Redren, je suis arrivé à le dire, qu'on a pu voir aussi pardon, dans Les Animaux Fantastiques.
Oui, là, il joue un moine, un jeune moine.
Alors, un il joue prêtre. Un jeune moine, effectivement, ouais. qui accompagne en fait un chevalier pour aller se rendre dans un village qui apparemment ne connaît en pleine peste aucun cas de peste. Et donc, ils sont persuadés, parce qu'on est aussi dans une époque de chasse aux sorcières, ils sont persuadés que il y a des œuvres maléfiques à l'œuvre dans ce village. Alors qu'en fait, c'est ni plus ni moins que le confinement qui, pour le coup, sauve ce village au départ de la peste. Et ces intrus qui viennent en fait enquêter vont amener la peste avec eux. Et dessiner le village. Donc, un bon film.
Un bon film qui navigue un petit peu avec le fantastique quand même.
Oui, enfin, alors ça, voilà, on ne sait jamais trop où est-ce qu'on se situe en fait. À tout moment.
Mais il est vraiment noir et crade, quoi. C'est comme il y a Sean Bean, ça rattache au Seigneur des Anneaux, à Game of Thrones, vu qu'en plus ça, c'est quand même très proche au niveau date. Enfin, c'est noir, il n'y a pas beaucoup d'espoir dans ce film. Les scènes, c'est hyper violent.
Il n'y a pas d'espoir, tu as raison, c'est sombre tout le temps. Vu qu'on flirte avec le fantastique en permanence, on ne sait jamais si ça va déraper ou pas. Et finalement, l'horreur, elle vient de l'humanité, en fait.
Et de ceux qui se prétendent en dehors de tout ça, en fait.
Tout à fait. Ça va du côté de l'âme la plus sombre. Finalement, de cette période-là, c'est-à-dire que l'Inquisition se pensait tout permis et au nom du sacré, au nom de voilà, on pouvait faire n'importe quoi et notamment décimer des villages entiers.
Ouais.
Donc un film que j'ai découvert par accident, mais je ne saurais que trop conseiller en fait.
Alors moi, je sais pas si je peux en parler, mais dans les films d'épidémie réaliste. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse avant, mais c'est parler de Contagion de Steven Soderbergh, qui est vraiment la référence en ce moment de ça, parce que c'est le film le plus récent là-dessus, avec un traitement relativement historique.
Un film de 2011 ?
Un film de 2011. Moi, là-dessus, il y a qui n'est pas forcément un film de Contagion, mais qui est un film qui se sert de la Contagion pour établir son histoire. C'est Mimic, que j'aime beaucoup, malgré que le film ne soit pas forcément... que Guillermo del Toro n'ait pas eu forcément la liberté sur son film, mais moi je le trouve assez sympa, et qui commence par une épidémie qui je trouvais très très bien retranscrite dans le New York début des années 2000, je crois, parce que c'est une légère anticipation, ou des années 90. Et cette épidémie va emmener un traitement qui va par la suite poser des problèmes, mais je trouve que c'est très très bien amené, et c'est extrêmement flippant. C'est pas un film forcément à très gros budget, mais ils arrivent à vraiment créer une ambiance très fin du monde dans New York, quoi. C'est ça qui est intéressant, et c'est le New York d'avant le 11 septembre en plus, donc c'est vraiment particulier. Enfin, je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais...
Bah, je suis assez d'accord. Après, si on parle de Contagion, on a un très bon casting. On a Laurence Fishburne, Jude Law, on a Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Marion Cotillard. Quand je dis très bon pour le casting, il y a aussi Marion Cotillard.
Ouais, j'ai revu mon jugement sur Marion Cotillard. Elle a fait le doublage des Mignons celle qui double la méchante, entre autres, hein, elle joue quand même pas mal. Moi, j'ai, voilà, simplement, si elle meurt pas bien, c'est qu'on lui a demandé de mourir comme ça.
Oui, alors en fait, c'est une. J'ai appris le pourquoi. Je crois que c'est une vengeance de la part de Christopher Nolan.
Ah bon?
En fait, parce qu'il semblerait que, il semblerait, hein, d'après ce que j'ai cru voir passer, parce que je me suis amusé à chercher un peu cette histoire-là, là, voir passer, c'est que normalement, elle avait un contrat d'exclusivité le temps du tournage, et que à plusieurs reprises, elle se barrait du tournage pour aller tourner un autre film, et qu'à c'était... un moment donné, ça l'a vraiment gonflé. Et il l'a fait mourir de manière très lente.
D'accord. Mais c'est bien aussi.
Bon, après, je me moque aussi de Marion Cotillard parce que c'est facile. C'est pas une mauvaise actrice, mais c'est, pour moi, c'est.
Et je crois que c'est De Rouille et d'Os, hein, son film, le film qu'elle tournait en loose day.
Ah, d'accord, peut-être.
Et qui est un bon film. Enfin, que, c'est un film que moi j'ai beaucoup aimé. Bon, ce qui me fait marrer avec Marion Cotillard, c'est qu'elle a eu tous les prix qu'elle a eu pour comment La Môme, qui est comme un gros navet, quoi. Donc c'est juste ça. Après, mais en même temps, son personnage en Contagion, puisqu'on parlait de Contagion, c'est la partie la moins intéressante du film aussi.
Oui.
C'est l'enquête sur le virus qui est le film est très très bien fait, surtout le début de l'épidémie avec Gwyneth Paltrow et tout ça. Moi, je trouve que c'est très bien amené. Le personnage de Kate Winslet est extraordinaire. Le médecin courage qui va aller jusqu'au bout. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le dépassement des autorités pour enterrer les morts, qui est assez. On a un peu ça dans 28 semaines plus tard, où quand ça déborde, bah, on tire dans le tas. Et là, bah, on se retrouve avec des barres d'immeubles, comme on en voit dans nos villes, avec des fosses communes au pied des barres. Et il y a des plans vraiment dans ce film que je trouve très, très intéressant, très flippant. Le personnage de Jude Law aussi est très intéressant. Après, je ne sais pas. Moi, je le rapprocherais plus d'un. Alors, c'est un personnage qui est actif sur le web, sachant que Steven Soderbergh parle de ça en 2011, donc c'était il y a quand même 10 ans, et on voit l'importance qu'Internet, que les réseaux sociaux ont pris pendant la pandémie actuelle. Et je trouve que le personnage de Jude Law, même si c'est sur Internet, je trouve que moi, il se rapproche plutôt d'un mec comme Zemmour, en fait, un genre de connard qui. Pardon. Un genre de canard qui a un fonds de commerce, en fait. Voilà. Et qui balance de la merde. Il sait que c'est de la merde, mais il s'en fout, c'est pas grave. C'est. Voilà. Et il crée le désordre, quoi. Enfin, il crée le désordre. Il y participe.
Voilà. Oui.
Mais après, ce que je trouve vraiment très raté dans le film, c'est la rapidité avec laquelle. L'enquête, en fait. L'enquête, déjà, qui est. Bah, c'est du cinéma américain pur jus, on a l'impression que c'est y a 5 personnes qui mènent l'enquête dans le monde et ces 5 personnes-là vont trouver la solution en relativement peu de temps. Voilà. Alors que l'autre partie, moi je trouve qu'elle est bien amenée. La partie avec Kate Winslet, on sent que c'est un médecin parmi d'autres. On sent vraiment que c'est un médecin parmi d'autres. Voilà. Et alors que. Ouais, bref, j'allais me répéter.
Voilà. Un autre film aussi, on peut parler, c'est un film qui s'appelle Arcap, qui n'est pas passé sur nos radars, enfin qui est passé en dessous des radars de nos toiles, en tout cas, qui est directement distribué en VOD et direct DVD. C'est un film qui s'appelle Pandémie, qui est un film coréen, en fait, qui est sorti sous le titre The Flu, la grippe, qui est un film de Sung Soo Kim. Alors Sung Soo Kim, c'est un réalisateur que moi je connais pour avoir vu notamment un film qui s'appelle Azura. Mais le film, en fait, parle aussi. C'est un film de 2014, hein, c'est un long métrage, et qui va nous plonger, en fait, dans une grande métropole. Et la police va découvrir entassés dans un conteneur des dizaines de corps putréfiés, en fait. Et en même temps, ils apprennent qu'un passeur de clandestin décède dans un hôpital atteint d'un virus inconnu. Et quelques heures plus tard, en fait, les urgences de la ville vont crouler sous l'afflux de malades. Donc c'est dommage que ce film ne soit pas sorti en France. Alors on peut le trouver dans les magasins, les solderies, etc. Parce que j'ai déjà vu passer, notamment dans une solderie célèbre de Château-Gontier. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir. C'est un regret. Voilà. Et puis en termes d'épidémie aussi un petit peu, on va dire, réaliste, c'est-à-dire en tout cas... épidémie qui va nous parler d'un virus, etc. On a On a aussi L'Armée des Douze Singes. C'est quand même le postulat de départ du film.
Un chef-d'œuvre. Enfin, un chef-d'œuvre. Un film que j'ai beaucoup aimé. Ce qui est un remake de la jetée de Chris Marker, qui est un film expérimental. Et ce qui avait de très drôle, moi je l'ai vu au ciné quand il est sorti, et ce qui avait de très drôle, de mémoire, je crois que je l'ai vu, j'ai dû le voir en... Ça devait être la fin de l'été, un truc comme ça. Je ne sais plus quand il est sorti exactement. Mais c'est un film qui annonçait la fin du monde pour dans 6 mois, en fait. Mmh. Donc il allait très vite forcément périmer par rapport à ça. Mais ça faisait une ambiance bizarre de voir que, en fait, il décrivait des choses qui se passaient théoriquement dans pas longtemps, en fait.
Voilà. Donc, ouais, un film de Terry Gilliam. Hein,
donc, ouais, il est sorti en février, donc j'ai dû le voir sur ces eaux-là. Et en février 96, un film de Terry Gilliam
Bruce Willis.
Un casting d'enfer.
Voilà, donc, il y a Palmer, Madden Stowe, Brad Pitt.
David Morse, voilà.
David Morse, tout à fait, qui est un acteur dont on ne parle pas assez.
Qui a un second rôle, qui a un très bon second rôle. Il a fait Rogue notamment, et puis un film que j'aime beaucoup, c'est The Crossing Guard de Sean Penn, qui est avec Robin Wright, hein, et Jack Nicholson, et puis Angelica Houston sur l'histoire d'un gars qui attend la sortie du gars du chauffard qui a tué sa fille pour le descendre, voilà. Bref, donc L'Armée des Douze Singes, c'est un film particulier quand même, par son esthétique déjà, parce que le futur, c'est un futur comme on a rarement vu au cinéma.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi un film, c'est un film fantastique, hein, ça reste de la science-fiction, hein, parce qu'il y a la question du loop, de la répétition temporelle. Mais on peut le dire maintenant, on peut spoiler un peu, hein, mais le film a quand même 20 ans bientôt. Non, il a plus de 20 ans.
25 ans.
C'est ça. Le gros silence gêné, tu sais, mince, j'ai pris cher. J'ai pris cher. Mais ça reste un très bon film. Je pense qu'il se voit très bien. Il a été décliné en série. Alors, la série n'a pas cartonné, mais pour en avoir vu une partie, en fait, j'ai pas vu la série dans son entier. C'est plutôt pas mal. Voilà. Mais ça ne vaudra pas. Quoi qu'il arrive, ça ne vaudra pas le film de Terry Gilliam, le chef-d'œuvre de Terry Gilliam.
Ouais. Et Brad Pitt qui était dans sa... Bon, je ne vais pas dire grande période, parce que c'est quand même un acteur qui dure, mais c'est vraiment la période où il perçait avec des films comme Seven, et puis un peu tout ce qu'il a fait à l'époque, hein, et celui-ci où il joue un fou, en fait.
Enfin, il joue un fou.
Un fou, ouais. Le malade qui est un malade interné.
C'est ça. Ouais. Et puis, comment ne pas parler d'Alerte, le film de Wolfgang Petersen.
Oui.
Alors, Wolfgang Petersen, c'est un très bon réalisateur. Hein, c'est en tout cas quelqu'un que j'aime beaucoup. On lui doit notamment Deux têtes d'As Boat, le bateau, hein, dans les années 80.
Oui, dans La Ligne de Mire avec Clint Eastwood.
Oui, L'Histoire sans fin.
Oui, je crois que c'est lui aussi le remake de Poséidon.
Tout à fait, en 2006, oui. Et puis, il avait fait En pleine tempête, que j'avais beaucoup aimé, aussi, avec Georges Clooney.
Oui, où j'étais sûr que les mecs, ils partent, il y a quelqu'un qui raconte l'histoire, ils s'en sont fort.
Ben non. Voilà. En fait, non.
Ben non.
je pense que c'est le côté très adroit du film, d'ailleurs.
Ouais. Le casting est très bon.
Oui, un très bon casting, tout à fait. Ouais. Et donc, Alerte.
Alerte, oui.
Donc, Alerte, c'est pareil, un bon casting, hein, Dustin Hoffman. On a René Rousseau aussi, qui était dans une bonne période. Morgan Freeman, Kevin Spacey, Donald Sutherland.
Kevin Spacey, qui n'était pas connu à l'époque.
Non, mais... bon, qui commençait une carrière prometteuse.
Ouais.
Et puis, Cuba Gooding Jr., oui, que je viens de dire. Et donc, on a un film qui parle d'une maladie, clairement, hein, le virus Motaba, alors pour pas dire Ebola, parce que je pense que Ebola, ça doit être une marque aux États-Unis. Ils ont dû déposer le nom du virus pour pas oser l'utiliser. Et qui apparaît, en fait, sur le sol américain et qui commence à contaminer. Alors, c'est une fièvre hémorragique, hein, façon Ebola. Hein. Alors, pour raconter Ebola, il faut se dire que le coronavirus à côté, c'est un petit rhume. Hein. Enfin,
une grippette. Une grippette.
Une grippette. Je pense que c'est ça, en fait. Notre ministère de la Santé devait avoir en tête Ebola et se dire, oh, c'est une grippette à côté. Effectivement, Ebola, c'est Umotaba, c'est une fièvre hémorragique qui est extrêmement contagieuse et qui est mortelle dans 90% des cas. Donc, ils arrivent pas à juguler la. Je parle du film, hein, ils n'arrivent pas à juguler l'épidémie, parce que dans la vraie vie, on sait que des épidémies sont jugulées. Ils n'arrivent pas à juguler l'épidémie et finalement, ils prennent une décision très difficile pour des Américains, c'est de raser la ville.
Oui, parce que l'épidémie est contenue dans une ville.
Oui. Ouais. Avant qu'elle sorte.
C'est ça. Ils sont balèzes.
Mais c'est bien connu. Les virus, de toute façon, sont contenus dans des villes. Ils ne sortent que entre 21h et 6h. Enfin bref. Mais ouais. En tout cas, il y aurait moyen de faire un film. Je pense qu'on tient un sujet.
À mon avis, c'est une comédie.
Mais en tout cas, voilà. Et s'ils ne trouvent pas le vaccin dans les quelques heures qui suit la décision, la ville est rasée par la comme tu disais tout à l'heure,
la déviqueteur, la coupeuse de pâquerettes.
La coupeuse de pâquerettes, voilà.
Qui est la bombe conventionnelle la plus puissante du monde.
Ah. Voilà. J'aime bien conventionnel après. Ouais. J'aime bien le mot conventionnel après la bombe. Je trouve que ça fait toujours. Ça rassure. C'est une bombe. Oh, conventionnelle. Ah ça va.
Ça veut dire que t'es vaporisé, mais t'es pas irradié.
Et donc, tout le monde le sait, un vaccin, ça se trouve en quelques heures et ils y arrivent.
Oui, surtout qu'il est hyper motivé parce qu'à un moment sa meuf elle est touchée. Donc,
c'est ça, ouais.
Elle commence à pisser du sang par les yeux, mais finalement elle va s'en sortir plutôt bien.
Je pense que c'est la motivation qui manque actuellement. Parce que merde, s'ils arrivent à trouver Ebola en quelques heures, franchement pour la grippette ils n'assurent pas quoi.
Bah oui, oui.
Bon, c'est là où on voit. C'est le côté irréaliste du film, hein, clairement. Enfin, si avec celui-là d'ailleurs. Parce que c'est pareil, la bombe, ils viennent de la larguer en hélicoptère. Ah bon? Et Dustin Hoffman, qui est un très bon pilote d'hélicoptère, en plus d'être un bon médecin, arrive à se mettre devant l'autre hélicoptère pour le faire renoncer.
Bon, là, tu marches sur tes souvenirs. C'est pas un hélicoptère, c'est un Hercule C-130, déjà, pour commencer. Hein. Et puis, c'est pas Dustin Hoffman qui pilote l'hélicoptère, c'est Cuba Gooding Jr. C'est son aide de camp.
Ah, tu as raison. Ouais. Tu as raison, c'est vrai. Pourquoi j'avais Dustin Hoffman? Ah, c'est Dustin Hoffman qui dit non, on bouge pas.
Non, parce qu'il fait beaucoup de trucs, Dustin Hoffman. Hein. Il trouve le vaccin, il court beaucoup, il fait tout le tour du monde.
Ouais, il peut pas piloter l'hélicoptère.
Non, il chasse le singe. Et en plus, il est sympa et il recolle les morceaux d'un mariage parti en lambeaux. Donc, c'est quand même pas mal. Tout ça en une heure et demie, il se débrouille bien. C'est Dustin Hoffman.
Le film dure 2 heures.
2 heures, pardon. Tu vois, je marche aussi sur mes souvenirs.
Bon, c'est un film, c'est marrant parce que c'est un film de Wolfgang Petersen et si on m'avait demandé il y a quelques jours de qui a fait Alerte, j'aurais dit Ron Howard.
Ouais, et bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il faut savoir quand même que quand il est sorti, c'était le blockbuster de l'été, c'est le gros film qui a cartonné.
Voilà. Ce qui est marrant, c'est que cet été, ça n'a pas cartonné le cinéma, c'est dommage.
C'est dommage, il y avait des bons films quand même.
C'est vrai, il y avait des bons films.
C'est. Moi, je me suis fait des comédies françaises.
Ah ouais, ah. Bah écoute. Eh bien, puisque tu parles de comédies françaises, on va essayer de faire une petite transition entre le film réaliste et le film qu'il devient moins, avec un film qui s'appelle Problemos.
Que je n'ai pas vu, mais qui a de très bons retours.
Qui est très drôle, que j'ai vu. Oui, tout à fait, je l'ai vu. Alors, il est drôle. Et pour moi, sa scène culte, c'est la scène de la pandémie, justement, où ils apprennent que c'est une pandémie. Alors, malheureusement, c'est la meilleure scène du film, je crois, et c'est celle qui est dans la bande-annonce.
Ah.
C'est qu'ils ont une espèce de. Alors, l'histoire, c'est que c'est des Parisiens, une famille parisienne, en fait, incarnée par Éric Judor et puis sa compagne, je ne sais plus son nom. Mais ce n'est pas grave, ils arrivent dans un. Ils font un stage d'été dans un camp où on rejette toute modernité. Donc, forcément, ils doivent laisser leur portable à l'entrée, etc. etc. Donc, ils sont coupés du monde. Ils sont accueillis dans une espèce de communauté comme ça, animée par une Blanche Gardin complètement pétée, mais elle est excellente dans ce rôle-là, ça lui passe super bien. Et dans ce groupe-là, il y a une nénette qui peut pas s'empêcher d'avoir son téléphone portable et qui, en fait, a réussi à en passer un en loose dé et qui est sur tous les réseaux sociaux et qui, à un moment donné, il dit « Oh, mais il y en a marre, les gens, ils arrêtent pas de dire pain de mie, c'est tout pourri. » Et c'est comme ça qu'Éric Judor s'empare du téléphone et voit pandémie et non pas pain de mie. Parce que forcément, elle est trop cruche. Et d'ailleurs, c'est la grosse cruchotte, elle joue très bien l'actrice. Et donc, cette communauté-là va apprendre à vivre eh ben, justement sur son petit îlot de... C'est les derniers survivants, en fait. Enfin, du moins, c'est ce qui semble. Et va se reproduire cette petite communauté bah, tous les conflits du monde. Donc, c'est très, très bien fait. Très, très bien. Alors, c'est un film voilà, qui a été réalisé par Éric Judor, d'ailleurs. Et qui a été scénarisé par Blanche Gardin. C'est pour ça peut-être qu'elle s'est réservé un bon rôle.
Ah, celle qui est au scénario.
C'est elle qui est au scénario. C'est un film qui n'est pas très vieux. Hein. Il y a 3 ans, il est 2017. Et on peut le trouver encore sans problème en VOD.
Oui, tiens d'ailleurs, quand tu parles de cruche sur Internet, tout ça, il faut savoir que j'ai appris récemment que pour améliorer l'impact de leur communication magnifique, nos gouvernants ont quand même contacté des gens du web que je ne connaissais même pas. Après, c'est pas de ma génération, hein, pour savoir comment parler aux jeunes, des influenceurs, comme on dit.
Ah oui. Voilà. En parlant d'influenceurs, pardon, je t'ai coupé. En parlant d'influenceurs, moi, je te propose une pause musicale avec une première influence qui m'est très chère. C'est celle de Aladdin de Disney. Voilà, qui me semble être complètement à propos.
Mon rêve bleu.
Mon rêve bleu.
Merci.
Je vais t'offrir un monde. Aux mille et une règles, déjà princesse, lave tes mains, mets du gel et frotte bien. On sait parler sur Insta, maintenant enfin on se voit. Mets-toi à 1 mètre de moi et puis mets un masque bleu, ce masque bleu. C'est un nouveau monde en couleur. Tu le mets sur ton visage en 3 secondes à peine. T'es gêné par ton haleine.
Ce masque bleu, ça tue l'amour, c'est tellement chaud. Je pensais qu'on allait se voir, qu'on allait se pécho. Là je réalise que c'était mieux en visio.
Nous mettons ce masque bleu à deux.
Sous le ciel de Paris, assis sur un vieux tapis, c'est de loin le premier date le plus éclaté de ma vie. Ce masque bleu,
au moins je vois tes yeux,
c'est encore un
lancer. Masque bleu,
vas-y décolle ton tapis.
Je peux passer celui de ma grand-mère. Y a plus qu'à se distraire d'une autre manière. Attendre que la vie reprenne sur terre. Ce masque bleu,
ce masque bleu,
aux mille règles.
Donc la planète sur les singes, mais non, c'est la planète des singes en fait. Les origines, en tout cas, le premier de la trilogie, de la nouvelle trilogie, précisons. Effectivement, démarre sur une épidémie de rougeole.
C'est ça. Les singes reçoivent un traitement qui les rend plus performants, en tout cas César, mais de l'autre côté, il y a une épidémie de rougeole, parce que ce traitement-là est développé justement pour vacciner... Non, je me trompe d'ailleurs, parce que il développe ce traitement pour soigner son père qui a
Alzheimer.
Voilà.
Tout à fait.
Et je ne sais plus pourquoi il y a l'épidémie de rougeole, d'ailleurs.
Parce qu'en fait, ils vont travailler sur un rétrovirus, effectivement, qui est effectivement le rétrovirus de la rougeole de tête. Et bah ça, le virus va s'échapper, va commencer à contaminer les gens.
C'est ça.
On a une épidémie, enfin classiquement une épidémie. Un type qui s'échappe d'un laboratoire et voilà. Et puis on a World War Z qui part. Alors là, par contre, ça y est, on part sur les zombies là. On n'est plus sur les singes. Qui a un très bon début aussi, je trouve. En termes de la manière dont l'épidémie se propage à une vitesse grand V, c'est très flippant, tout ce passage-là. Et c'est vrai que le film, pour moi, c'est un film de Mark Foster avec Brad Pitt, hein, notamment. Et ce film-là, pour moi, il a deux parties. Il a la première partie qui est vraiment très réussie, réellement. Et puis la deuxième partie qui finit un petit peu façon un peu huis clos, c'est où il est dans les labos, etc. Et je trouve ça moins intéressant. Et la partie où on voit vraiment la manière dont l'épidémie se dissémine et se propage et à quel point il faut réduire les effectifs sur les bateaux, les machins, les trucs. Enfin, voilà, on commence à se débarrasser des gens parce que ça fait des bouches à nourrir. Je trouvais ça vraiment pas mal. Donc c'est un film qui est adapté d'un roman du fils de Mel Brooks, d'ailleurs, Max Brooks, qui s'appelle World War Z. Et le film est... a pris le parti pris de décrire ce qui se passait pendant cette épidémie-là, alors que le bouquin, pas du tout. Le bouquin, c'est un journaliste qui va enquêter a posteriori et qui va recueillir des témoignages.
Ouais, je l'ai trouvé... j'ai bien aimé le début, comme toi. Après, je l'ai trouvé relativement moche au niveau réalisation. C'est pas l'extase. Les effets spéciaux sont assez ratés, ce qui m'a assez... vite fait sortir du film. Et un peu comme dans Alerte et dans Contagion, c'est le fait que un mec tout seul se fasse l'épidémie, quoi. Ça m'a un peu sorti du truc, quoi. Voilà. Et y avait un 2 qui était en préparation, je crois qu'il a été abandonné. Le 2 était en préparation, il a été abandonné, puis il a été relancé. Et ça devait être David Fincher qui devait le réaliser. Je crois que ça a été abandonné depuis aussi. Donc je pense que c'est un projet...
Un projet mort,
ouais.
Après, je ne sais pas ce qu'on pourrait en faire. Enfin, en termes de suite, c'est pas évident.
Non. Non, parce qu'en fait, il trouve le vaccin, donc.
C'est la manière dont on vend le vaccin.
Et puis, ça s'est déjà arrivé avec des films dont justement, 28 jours et 28 semaines plus tard, ils ont déjà fait. Ils sont très bons.
Ils sont très bons.
Voilà, c'est. 28 jours plus tard, pour moi d'ailleurs, c'est peut-être le film qui a relancé le film de zombies, même si ce ne sont pas des zombies, mais le principe reste le même, parce qu'il doit dater de 2000, je crois, 28 jours plus tard, 2000 ou 2002.
Il commence à dater aussi.
Ouais. Il a relancé aussi la carrière de Danny Boyle d'ailleurs.
Oui. 28 jours plus tard, c'est un film effectivement de Danny Boyle, tu viens de le dire, de 2003.
Et de ce que j'avais lu, ce que moi j'aime bien dans ce film-là, c'est que c'est un film créatif. C'est un film qui crée son ambiance, mais pas forcément avec des grosses malles de bifton. Les plans de Londres vides sont vraiment bluffants. Et ça a été fait de façon toute bête en tournant très tôt le matin. Avant que les gens n'aillent au boulot, donc entre le moment où les gens rentraient de boîte et le moment où les gens allaient au boulot. Donc c'est vraiment très malin. Et puis il y a des choses qui ont été mises en place qui sont vraiment très intéressantes, parce que même si le film est de 2003, il y a des scènes qui avaient été tournées avant le 11 septembre 2001 ou des choses comme ça. Notamment la scène où ils se retrouvent face à un tableau où les gens ont punaisé des photos de leurs proches en expliquant qu'ils les cherchent. Et c'est ce qui s'est passé pour le 11 septembre de façon naturelle, en fait. Donc c'est un film qui est vraiment bien pensé, je trouve, dans la façon d'amener l'épidémie. Et puis le principe même du gars qui se réveille alors que tout est passé, déjà au niveau scénaristique, ça raconte beaucoup de choses sans en montrer tant que ça. C'est un petit film, hein, quand même, 28 jours plus tard. Et l'acteur est très bien. Enfin, bref, c'est une grosse, grosse réussite. La musique fonctionne très bien. La
ville de Londres, le rythme est assez lent, malgré tout. Mais le film est flippant.
Le film est flippant. Et la fin est décevante quand même, moi, je trouve. Parce que, voilà, c'est comme ça. Il y avait une fin différente qui était choisie, qui était moins heureuse, je crois, mais qui n'était pas forcément plus réussie. Et puis voilà. Et après, il y a eu 28 semaines plus tard. Il devait enclencher sur 28 mois plus tard, ce qui ne s'est pas fait. Et 28 semaines plus tard, c'est une suite qui... on avait fait une émission sur les suites, mais ça, pour moi, c'est une des rares suites qui est... moi, je la mettrais même devant 28 jours plus tard, alors que j'aime beaucoup 28 jours plus tard, mais rien que la scène d'intro de 28 semaines plus tard est phénoménale.
C'est, tout à fait.
On a vraiment peur pour les gens qui sont sur l'écran. Quoi. C'est vraiment bien. Et puis moi, j'aime bien aussi le traitement de 28 semaines plus tard sur ce que je disais tout à l'heure, c'est... L'armée qui cadre, mais l'armée, quand elle est débordée, elle fait pas de manière, elle tire dans le tas.
C'est voilà. Ça, tout à fait.
Cette scène-là, il y a Jérémy Renner, je crois d'ailleurs, qui joue dans 28 semaines plus tard. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Qui fait un militaire. Ouais. Après, dans 28 semaines plus tard, le côté récurrent du personnage de Robert Carlyle est un peu too much. Quoi. Mais.
Voilà. Alors, un autre film de zombies, moi, que j'aime beaucoup aussi, qui est très récent, hein, c'est Le Dernier Train pour Busan.
Ah, que j'aime bien aussi, ouais. J'ai vu récemment, bah, pendant le confinement d'ailleurs, le premier.
Et voilà. Qui est très réussi en termes d'ambiance, qui, pareil, alors là par contre, est sans concession hein, sur la manière dont les gens se font déborder, l'armée se fait déborder. Enfin, on voit bien à quel point, en fait, finalement, c'est l'épidémie de zombies elle-même, puisqu'on parle là de zombies, mais est absolument non maîtrisable, en fait, par personne. C'est un film qui est sombre jusqu'au bout.
Oui.
Il n'y a pas de. C'est un film qui a aucune rédemption, qui a aucune. Voilà. C'est... Et dont la suite, d'ailleurs, est sortie, alors je crois.
Il est sorti là. Péninsula. Elle est sortie juste avant le confinement, je crois. Pas très.
Ils n'ont pas dû réussir à le. À le...
Moi, j'aime bien
après, à l'affiche.
C'est du film. C'est du cinéma coréen, donc c'est un jeu qui est quand même particulier, très exagéré dans les mouvements, tout ça. Mais c'est vachement sympa. D'ailleurs, ça m'a permis de me rappeler que la France avait vendu des TGV à la Corée. Mais ouais. Le film est vraiment bien.
Alors, c'est le même réalisateur, hein, c'est. Voilà, donc c'est une vraie suite, enfin c'est une suite assumée par son réalisateur. Hein. Réalisateur, c'est Yeon Sang-ho. Et donc, Dernier Train pour Busan, le film est de 2016. Voilà, 4 ans plus tard, il sort Peninsula. Alors moi, je regrette qu'il y ait eu le deuxième confinement pour ça, parce que j'ai pas eu le temps d'aller me faire tous les films que je voulais me faire. Et il fait partie de la liste. Donc je vais pas beaucoup en parler parce que je n'en sais pas grand chose.
Moi non plus.
Mais Dernier Train pour Busan, pour moi, est un des derniers meilleurs films de zombies qu'on ait eu.
Oui. Oui. Sachant que dans les films de zombies, il y a quand même une grande majorité de films tout à fait dispensables.
Tout à fait, c'est vrai. Et du côté de la Corée, on a un autre film aussi qui est intéressant, qui s'appelle Hashtag Alive, qui raconte l'histoire d'un streamer, en fait, qui est coincé dans son appartement alors que. La ville est infestée de zombies et il fait son petit journal de bord en bon youtubeur ou instagrammeur, je sais pas comment on dit, depuis chez lui, et il raconte son isolement. Pour moi c'est un vrai film d'actualité. Il est disponible sur Prime Video, je précise.
Alors, film de zombies aussi un peu moins récent que Dernier Train pour Busan, mais assez sympa, il y a Bienvenue à Zombieland.
Oui, alors qui a eu sa suite, The Second Tap, un
que
retour
je n'ai pas vu encore.
Que je n'ai pas encore vu, c'est aussi prévu sur mon.
Ah.
Mais dont
et
tu aussi, entendras moi... un petit passage du deuxième dans le générique.
D'accord.
Tu réécouteras ton générique et tu verras.
Que j'ai vraiment trouvé très bien.
Il est fabuleux. Je crois que c'est le meilleur qu'on ait jamais eu.
Je pense, ouais. 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 En dehors de celui de l'année dernière.
Enfin, c'est ce que j'allais dire, à part celui d'il y a 2 ans. Putain, non, c'était il y a 2 ans. La saison 4. C'est comme les Freddy, hein. c'est les années paires qui sont bonnes.
Oh, tu rigoles, Freddy 2, il est pas mal. Hein.
Ouais, c'est ce que je viens de dire.
Ah non, mais le premier, il est bien aussi.
Ah oui, c'est vrai. Et puis, j'ai envie de parler de... Tiens, j'ai envie de parler d'une pause musicale.
Et Shaun of the Dead, alors, Shaun of the Dead, t'en penses quoi?
Ah ben, c'est un chef d'œuvre.
Bah, on est d'accord.
D'ailleurs, l'équipe s'est réunie pour une série qui est produite par Amazon, qui s'appelle Truth Seeker, et je te conseille vivement de jeter un œil.
Mais c'est sur Amazon Prime, et moi, je n'ai pas Amazon Prime.
Ouais, c'est dommage.
Entre ça, plus Disney+, plus Netflix, plus...
Oui, mais t'as Disney+, et enfin, bref. Et finalement, on peut aussi parler... Petite pause musicale, peut-être, avant.
Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi nous cloîtrer, nous enfermer? Comment un monde aussi pollué n'a toujours pas développé d'immunité collective? J'ai cette ferraille depuis un bail. Pour de la maille, c'est le télétravail. J'ai pour ami mon ennui. J'ai une vie bien pourrie. Ces détritus viennent de la rue. J'ai l'air bien belle, moi, au chômage partiel. Et pour faire passer le temps, je fais beaucoup de rangements. Toutes ces poubelles, on en verra bien moins. C'est sûr que pour la terre, c'est plus sain. Tu vois ces tire-bouchons? Ils appartiennent à des cochons. Je bouffe du thon, je passe ma vie au balcon. Moi, je voudrais faire des festivals. Moi, je voudrais pouvoir aller danser en appart, c'est de la balle. Qu'est-ce qu'on fait? Que dalle! Dans mon couloir, je bats de la nageoire. Il faut de l'espoir pour ne pas trop boire. Pour un peu de tonus, qu'est-ce qu'il faut déjà? Disney Plus! Pouvoir marcher, pouvoir courir et ressortir enfin en plein jour. Pitié, au secours, comme j'aimerais sortir là-bas. Je donnerai tout ce que j'ai pour me balader, même de l'oseille pour faire un barbecue au soleil. Les flics comprennent, je suis pas certaine. On se dit que la prison serait pareille. Je trouve plus le sommeil, je suis en éveil. Adieu réveil. Les labels, une petite rumeur et tout le monde a peur. Acheter du sel, des gants, des masques et surtout du gel. On ne profite pas de ce beau ciel, on est bloqué sur nos logiciels. Je deviens folle. Ce n'est plus drôle, sortir la peur.
Ariel, arrête de faire ton Ariana Grande. Range-moi ce bordel, sinon je vais servir.
Qu'est-ce qu'on fait?
On arrête de chanter.
Que dalle!
Normalement, un poisson, ça tourne en rond. Si tu continues, je te transforme en souci.
Les flics comprennent. Je suis pas certaine.
Pitié, arrête!
Pitié, au secours! Comme j'aimerais sortir là-bas.
Ah bah dis donc, c'était bien. C'était quoi ce petit morceau?
Eh bien, c'était encore un morceau Disney.
Ah.
Aujourd'hui, on est dans le plaisir de... Là, c'était la petite sirène.
C'est pour ça que j'ai les oreilles qui saignent.
C'est ça.
Merci Laurent.
Je t'en prie, j'en ai encore un derrière les fagots.
Me dis pas que c'est la Reine des Neiges.
Eh si. C'est la Reine des Neiges.
Chouette.
Oh mince, t'as deviné.
Un film que je voulais pas voir, que j'ai vu et que j'ai bien aimé finalement.
Ah ben ça me fait plaisir.
C'est pas un mauvais Disney, loin de là.
C'est
ça vaut pas taramer le chaudron magique, mais...
Oh, revois-le et tu vas piétiner tes souvenirs.
Ah oui?
Ah oui. Mais revenons à nos histoires d'épidémies, si tu veux bien. J'ai envie de te parler des épidémies un petit peu plus rares. Ce sont les épidémies de vampires, mon enfant.
Oui.
avec un film que j'ai beaucoup aimé. Alors forcément, on peut parler de Je suis une légende.
C'est un film que j'ai beaucoup pas aimé.
Mais je parle du film de 1964, cher ami.
Ah. Ah oui, parce qu'il y a aussi celui de 1971, je crois, ou 74 avec ou 78 même avec Charlton Heston.
Eh bien là, c'est 1964. C'est un film avec Vincent Price. Et c'était un film réalisé par, je ne me souviens plus, je vais tout le retrouver, Sidney Scalo et Umbaldo Ragona. Voilà. Donc voilà, c'est le film dont a été fait effectivement plusieurs remakes, qui est un film en noir et blanc, qui est...
J'en ai un autre avec plein de remakes après, hein. Vas-y.
D'accord, donc... qui est un film adapté d'un roman de Richard Matheson, hein, qui s'appelle voilà, le roman éponyme, hein, Je suis une légende, et qui a effectivement eu beaucoup, beaucoup de remakes, voilà, dont Le Survivant, en fait, de Boris Sagal en 71, avec Charlton Heston, c'est celui-ci dont tu parlais, et puis Je suis une légende, avec Will Smith. Et puis un autre film que j'aime beaucoup aussi, si tu me permets, c'est Daybreakers.
Ah, ça, ouais. Moi, c'est un film que j'ai découvert à la télé et que j'ai regretté de ne pas avoir vu au ciné.
Voilà, avec Ethan Hawke, avec William Defoe et Sam Neill.
Oui. Une bonne variante du film de vampire, un film bien crado. Hein.
Ouais, de 2009, où les vampires ont pris le pouvoir, en fait. Et se pose la question, enfin ils sont à la recherche en fait de la possibilité de survivre au soleil. Et il va y avoir une mutinerie au sein même des vampires.
Oui, et il y a des vampires mutants qui commencent à apparaître. En plus, des vampires dégueux, là. C'est ça, hein ?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Mais un bon film, enfin un petit film que j'ai découvert aussi sur le tard, mais que j'ai beaucoup aimé.
Oui, un peu comme... Moi, ça a été une bonne surprise un peu pour moi, comme pour 30 jours de nuit, en fait.
Oui, 30 jours de nuit, oui, tout à fait, oui. Mais qui n'est pas un film sur les épidémies, qui est clairement...
C'est plus un
film de vampire classique.
Un film de vampire mode western, un petit peu, avec un film de siège, en fait.
Ouais. Tout à fait. Après, en mode vampire, on a une série qui est très bien aussi, qui s'appelle The Strain, qui est une série, je crois, dont on a déjà parlé. Qui est une série de... Alors, la contagion vampire se fait par des parasites, en fait, et qui est vraiment très bien. C'est une série de Guillermo del Toro.
Donc, ah oui, tiré de ses bouquins.
Tiré de ses bouquins, tout à fait, de cette trilogie. Ouais. Et une autre série, moi, que j'ai envie de vous conseiller, qui s'appelle The Rain, qui est une série de 2018, qui est actuellement disponible sur Netflix. Je ne sais pas si tu as Netflix, mais si tu as Netflix, tu peux regarder cette série. Qui est une série qui parle d'une épidémie mondiale, en fait, et qui se transmet par la pluie. Donc, quand il pleut, il faut s'abriter, parce que sinon, on peut se faire contaminer.
Ah, c'est pas mal. Moi, j'ai... Dans le genre de contamination, c'est pas les vampires, c'est une allégorie des communistes, en gros. l'invasion des profanateurs.
Ah oui,
qui a eu beaucoup... Oui. C'est pas une maladie, mais ça se répand de la même façon. Et c'est un film qui, bizarrement, a eu beaucoup de remakes. Hein, et qui, bizarrement...
Le profanateur de Sépulture, hein, le premier.
Le premier, ouais. Le premier qui date de 1956, de Don Siegel. Hein, suivi de l'invasion des profanateurs, qui lui a été réalisé par... le réalisateur de l'étoffe des héros. Je me suis perdu.
Philippe Kaufman, peut-être.
Philippe Kaufman, voilà, avec Donald Sutherland. Qui est pareil, qui est très très bon.
Avec Jeff Goldblum.
Avec Jeff Goldblum, ouais.
Ah, Brooke Adams.
C'est ça. Et puis comment... Il y a eu un autre remake dans les années 90.
Oui,
c'est
un des Abel premiers Ferrara. Films
d'Abel Ferrara. Et c'est un remake qui n'est pas forcément très bien coté, mais que moi j'aime beaucoup.
Oui, Body Snatchers.
Body Snatchers, ouais. Ça se passe pour le coup dans une base militaire. Et puis il y a une fille qui arrive avec son père qui est je sais plus si il est séparé, en tout cas il a une nouvelle compagne, et puis ses deux enfants, donc l'héroïne plus son petit frère, et puis au fur et à mesure les gens commencent à avoir des comportements bizarres, sans émotion, comme dans les autres films en fait,
Et certaines personnes, ça devient parano. Et en fait, les personnes sont au fur et à mesure remplacées par des copies qui ont une intelligence collective. Après, ça, c'est un effet scénaristique du cinéma qui est un peu gonflant, c'est qu'en général, quand on est en version extraterrestre, il suffit soit de tuer le chef et tout le monde meurt, soit d'avoir un virus compatible Windows pour l'emmener dans le vaisseau mère.
On a la même référence. C'est...
Voilà. Et donc, moi, Body Snatcher, je l'ai vu au ciné. Ça veut dire que je ne suis pas très jeune. Hein. Parce qu'il est sorti en quelle année, Body Snatcher ?
Body Snatcher, c'est 93, non ?
93, ouais.
Ouais, et... c'est ça. J'ai bonne
et j'avais bien aimé l'ambiance qui se dégageait. Oui, parce que c'est
au cinéma, moi, j'ai bien aimé.
Ouais. Et c'est... Non, et puis le dernier remake, c'était Invasion.
Invasion, voilà. Tout à fait, en 2007, avec Daniel Craig et Nicole Kidman.
Et qui, lui, moi, je trouve un petit poil moins bien, mais qui tient comme la route, parce qu'il y a un bon casting, en fait, donc ça le fait. Et puis, c'est une bonne variante, quand même, donc c'est pas mal. Voilà.
Oui, alors Body Snatchers, mon seul regret du film, c'est que contrairement aux deux autres, on a une fin positive.
Faussement positif, mais un petit peu, ouais.
Ils vont détruire quand même, donc dans Body Snatchers, dès qu'on voit deux.
Oui. Voilà. Alors que dans l'autre, l'héroïne se rend compte que le héros, il a été remplacé aussi.
C'est vrai.
Ouais. Donc.
Un autre film dont j'avais envie de parler, moi, c'était Planète Terror.
Ah, ça c'est là tu parles à quelqu'un qui est bien.
un film de Robert Rodriguez, hein. C'est un film qui commence à avoir un peu plus de 10 ans, hein, maintenant 2007.
Avec, on part sur une très bonne idée de Tarantino et de Rodriguez.
Tout à fait.
Le Greenhouse.
Un casting de rêve, hein, avec Bruce Willis, Josh Brolin notamment. Et puis, pareil, c'est un film de zombies, mais avec, c'est plus dû à des produits militaires cachés qu'autre chose, mais il y a ce côté qui se dissémine un peu pareil et qui est franchement drôle. J'avais envie d'en parler parce que c'est surtout un très bon film.
Oui, moi j'ai bien aimé, comme je te disais, la baston de pu.
Ah oui, évidemment.
Ah, ça c'est pas mal quand le gars inspecte la langue de l'autre et qu'il se prend une bonne giclée de pu sur ses lunettes. Voilà. Le barbecue aussi que je trouve sympa, avec le mec qui est évanoui avec ses saucisses sur le bide.
Ou les couilles de Tarantino qui fondent comme neige au soleil.
Ah oui, oui. Ouais. C'est un film qui est un peu lourdingue quand même.
Oui.
Mais voilà, il y a de très bons moments dedans. C'est très gore quand la fille se fait inspecter la tête alors qu'il n'y a plus rien dedans. Enfin, c'est...
c'est à revoir.
Ouais.
Et puis, côté série, il y a quand même quelques petites séries sympathiques. Moi, j'ai envie de parler. Il y a une série anglaise, moi, que j'ai beaucoup aimée. C'est Elix. Qui est une... Alors, il y a deux saisons. Hein, le CDC, en fait, qui donne une alerte. Il y a une brèche dans un protocole de sécurité d'une base en Arctique où un virus était à l'étude et le virus se répand. Toute ressemblance avec un laboratoire en Chine est purement fortuite. Et puis, une autre série que j'aime bien, moi, qui est une série coréenne, qui s'appelle Kingdom, qui est une série de zombies, qui se passe au Moyen-Âge coréen. C'est très très bien. C'est très bien filmé, c'est très flippant. Les zombies sont bien joués, donc... Voilà, petite... C'est marrant comment dès qu'on parle d'épidémie, on en revient systématiquement aux zombies, hein, quand même.
c'est une créature sympa, quand même, le zombie. Hein.
Voilà, ça fait peur et il ne faut pas se mordre, se faire mordre.
Il ne faut pas se faire mordre. Et puis, c'est une bestiole qui n'a aucun super pouvoir, qui pue la charogne, mais par le nombre, fait beaucoup de dégâts. Voilà.
C'est ça, et puis le principe de dissémination est un principe épidémique, puisque c'est par la morsure ou la griffure, ou la giclée de pu, effectivement.
Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça bien. Je trouve bien le film Zombie de Romero, parce que les gens morts, quand il ne leur reste plus qu'un seul réflexe, c'est d'aller faire des courses.
Oui, effectivement. Ouais. Et Romero avait l'avantage de vouloir faire de faits de société, finalement, c'est les sujets centraux de ses films. Ouais. Pour être un spécial Romero, d'ailleurs.
Ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bien avec lui, c'est qu'il est, il est, tout, il est toujours au contre-pied. Dans le premier, dans Zombie, il parle un peu de la société de consommation, ou en tout cas, c'est pas qui. Enfin, pour moi, c'est plus le fil rouge. Enfin, pas le fil rouge, mais le décor un peu du film. Oui, mais c'est très intéressant. C'est et puis après, on arrive à une époque où le zombie se fait canarder. Canardé, dégommé, explosé de tous les côtés, et lui sort le territoire des morts avec des zombies qui ont une âme, enfin qui ont une âme qui
commence à réfléchir.
Qui commence à réfléchir, ouais. Ouais.
Et... Il y avait Diary of the Dead aussi, je crois, de tête, il me semble.
Ouais, que j'ai beaucoup aimé,
Critique la société des écrans. En
fait. Des écrans, des médias où des jeunes vont filmer une épidémie de zombies pour montrer la vérité, mais comme la vérité leur plaît pas beaucoup, ils vont un peu la ranger à leur sauce, quoi. Voilà.
Et puis il me semble hein, que tu voulais parler d'une adaptation de Stephen King.
Oui, Le Fléau. Et je crois qu'il y a une série qui est en préparation. Non ?
D'accord, peut-être.
Je crois. Mais là, je parle de la série de.
Alors, c'est une mini-série, hein, 4 épisodes.
4 épisodes, ouais. Bon. Quand on les regarde à la suite, on a l'impression qu'il y en a 8 quand même. Mais
oui.
Surtout la fin. Alors, c'était la grosse, grosse série qui était sortie à l'époque, avec grand renfort de communication, communication sur le casting, sur les effets spéciaux, sur les moyens qui étaient mis en œuvre. Même déjà à l'époque, ça sentait un peu le faisant quand même. je sais pas ce que tu en penses.
Oui, bah, j'avais pas aimé moi, cette série. J'avais pas le livre en fait, de King, c'est une époque où quand c'était adapté, de toute façon, je trouvais ça systématiquement raté.
Et voilà, moi j'aime beaucoup je crois que c'est les deux premiers épisodes, et encore je crois que la moitié du deuxième. Après, c'est un peu plus douloureux. Parce que c'est clairement pas un manque de moyens, c'est vraiment un manque de créativité et le réalisateur ne devait pas être bon, je sais pas. Le casting est bien, enfin tout est bien. Les effets spéciaux ont bien vieilli quand même. On voit qu'ils ont les moyens parce qu'ils ont tourné à Las Vegas. Enfin, on voit qu'il y avait les moyens, mais ça fonctionne pas forcément des masses. Bah, d'ailleurs, quand tu parles de Stephen King, j'ai découvert, parce que je l'avais jamais vu en entier, Dead Zone, qui est passé sur Arte récemment.
Ah, il est très bien.
Et c'est un très très bon film. Ouais. Ouais, Christopher Walken est
excellent.
Est excellent, ouais. Ouais.
Bah oui, oui, oui. Mais il n'y a pas de virus dans Dead Zone.
Non, il n'y a pas. Donc on n'en parle pas, on n'en a pas parlé. Non, mais dans les adaptations, souvent les adaptations de Stephen King sont plutôt ratées. Quoique.
Ah, bah, je dirais pas ça, parce que moi, il y a des films que j'aime beaucoup dans l'eau, mais.
Il y en a eu beaucoup dans les années 90, ils adaptaient un peu tout et n'importe quoi, et surtout n'importe comment.
N'importe comment, surtout. Voilà. Oui.
Mais il restait des films qui sont. C'est pas le sujet, mais moi je parle du Bazar d'épouvante. C'est un film qui est pas extraordinaire, mais pour lequel moi j'ai beaucoup de sympathie. Voilà.
Enfin, moi je retiendrai les films de Frank Darabont, hein, The Mist, et puis Les Évadés.
Oui. Voilà. Et puis la ligne verte, même si c'est pas Stephen King officiel, mais c'est lui qui a écrit.
Ouais.
Et puis Christine, bien sûr.
Et Christine, bien sûr, de Maître Carpenter. Voilà. Un autre film dont on n'a pas parlé, parce qu'on parlait d'épidémie, mais je crois que c'est notre gimmick, en fait, ce film-là. On parlait d'épidémie et de parasites, c'est...
Ah oui, The Thing.
Voilà, de Carpenter, où effectivement aussi, là, c'est un système de contagion qui est même drôlement efficace, puisque on est contaminé sans le savoir.
Ah ouais, c'est... Ouais. C'est... Je sais pas comment dire, ce film, il est tout quasiment tout. Voilà. C'est un film... Moi, j'ai pris une claque quand je l'ai vu, parce que je l'ai vu dans les années 90. J'ai pris une claque avec les effets spéciaux, mais il fonctionne toujours très bien, ces effets spéciaux.
Ça fonctionne encore très bien,
ouais. Voilà. Ça a été réalisé par un mec qui avait 24 ans, qui gérait une équipe de 40 personnes. C'est bluffant. Voilà. L'ambiance est terrible, la musique est terrible.
Tout est bien.
Le casting est bien, les personnages sont bien... Le début du film est bien, la fin du film est bien, le milieu est extraordinaire. Enfin, voilà. C'est. Il y a une ambiance de parano. Il y a.
Mais c'est ça qui est. Enfin, moi, je trouve que c'est peut-être là-dessus que j'aurais envie de conclure. C'est de dire que je trouve que les films de finalement d'épidémie vont pourrait très très bien fonctionner si on y rajoutait le confinement. C'est-à-dire que The Thing, c'est à huis clos, finalement. Enfin, on en parle régulièrement de ce film-là, parce que je crois que ça fait partie du panthéon de nos films préférés, mais c'est quand même un film à huis clos, et c'est un film qui parle de contamination, qui joue la parano, etc. Et quand on a des films avec une épidémie à grande échelle, à l'échelle de la Terre, etc., c'est, enfin, même si ça peut être réaliste, la preuve, c'est too much. Et c'est beaucoup plus flippant quand c'est dans les espaces clos.
Oui, parce que tu peux pas t'échapper.
Parce que tu peux pas t'échapper. Mmh. Et peut-être.
Mais il y avait un film japonais, Virus, comme ça, des années 80.
Oui, tout à fait.
Où tu avais toute la population mondiale qui mourait, sauf une équipe en Antarctique, je crois, un truc comme ça. Et, c'est un peu le même principe que The Thing, d'ailleurs, dans l'absolu. Enfin, voilà.
Et c'est ce qui manque à pas mal de films, hein, c'est ce côté. Quand on suit trop de personnages, etc., enfin, on s'attache pas à eux. Si on est dans un espace confiné avec quelques personnages, comme The Thing, mais comme Les Huit Salopards, comme tous les films de huis clos dont on a pu parler il y a un mois, on a beaucoup plus de sympathie. Ne mets pas ton doigt sur l'écran comme ça fait bizarre.
Je vois plus Joël, donc j'ai peur qu'il ait disparu. Attends.
Non, il est toujours là, mais il a dû couper sa caméra.
D'accord.
Mais on a une réelle ambiance. Je pense de terrible quand on est dans un espace confiné. Voilà, oui. Tu vois, regarde par exemple Joël, si jamais il était contaminé, il nous ferait peur. Et c'est mieux quand il n'a pas le micro.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que des films comme Alerte, c'est un film agréable, mais c'est pas un film qui t'accroche à ton siège. C'est ça. Voilà.
Peut-être une dernière pause musicale. On n'aura pas passé les quatre morceaux. Alors, Joël, je te laisse le choix, mais j'ai envie de rester quand même sur du Disney. Tant pis. J'avais choisi quatre morceaux, mais ça sera le Disney qu'on va garder puisque ça sera notre message d'espoir pour ce soir. Si t'es d'accord avec La Reine des Neiges.
Oui, libéré, délivré.
Une chanson de déconfinement. Je te laisserai découvrir avec plaisir.
Ouais.
Le jour du déconfinement. Ouvrez les fenêtres, l'air sent si bon. On sent presque plus la pollution. Tout est bien passé au désinfectant. J'étais confinée matin et soir. Il n'y avait plus aucun espoir. Enfin nous sortons du confinement. On serre plus les mains pour le moment. Plus de vis, parfois ça m'arrange. Nous n'attendions plus cette délivrance. Je veux fêter ce déconfinement avec ma bande de copains. Je vais fêter ce déconfinement en buvant jusqu'au matin. Enroué, enrhumé, s'ils se mettent à tousser, je verrai ça de mauvais oeil. C'est le jour du déconfinement. Nous ne serons plus seuls. J'ai hâte de dépenser tout ce que j'ai mis de côté. La petite boutique de prêt-à-porter est peut-être ouverte. Je vais me trouver une belle robe de cocktail chez Gucci ou bien chez Chanel. Un sac Hermès, des centaines de godasses. Le PIB en a pris un coup. Il faudra travailler beaucoup. On s'empiffrera tous sur des furences. Certains feront des mondanités. D'autres s'épuiseront à la tâche. Et ça finira encore par un clash. Oh, je vais fêter ce déconfinement en gardant toujours espoir. Je vais fêter ce déconfinement que l'on donne l'accès au bar. Des concerts, du théâtre, de la danse. Je rêve d'insouciance. Oui, je vais fêter ce déconfinement. Je garde mon innocence. Il est trop tard, les écoliers sont là. Es-tu certain que l'hôpital survivra? Les gestes
barrière, le port du masque. Mais sans gants, on se contaminera. Il faudra bien se protéger,
bien se protéger.
Éviter les remords,
éviter les remords.
Pour nos soignants, l'inquiétude est si fort,
si fort.
Je veux fêter ce déconfinement.
Deuxième vague,
me prenant jusqu'à ce soir.
Et ce secret des carences,
j'aimerais vraiment tout revoir.
Je pense qu'on est au bout de notre émission.
Oui, au large. Même on a même commencé la celle du mois prochain.
On a commencé celle du mois prochain. C'est parfait.
Ouais, je pense, ouais. Ouais.
On est pas mal, Maître Joël, on est pas mal. Après, c'est vrai que ce format-là, on le teste, hein, on peut dire les choses à nos auditeurs, c'est qu'on est chacun chez nous, donc bien confinés comme il faut. Nous sommes des gens obéissants au pouvoir en place. Mais c'est pas évident. C'est un exercice étrange.
Oui, oui.
Donc, on va aiguiser nos lames et nos chaînes de tronçonneuses.
On a encore deux émissions à faire comme ça en mode confinement, au moins.
Au moins deux, ouais.
Enfin, pour le deuxième confinement, je veux dire.
Ah oui, parce qu'il y en aura d'autres, c'est ça que tu veux dire?
Ah bah, t'as bien écouté ce que François Morel disait. Hein. Enfin bon.
En tout cas, pour ce deuxième confinement, on va aiguiser nos lames de tronçonneuse. De toute façon, on en aura besoin pour le troisième quand les gens seront transformés en zombies après un vaccin pourri.
Oui, c'est pas faux.
Donc là, forcément, on aura besoin de la tronçonneuse.
En même temps, honnêtement, comme c'est Pfizer qui fait le vaccin, je suis pas sûr que l'effet secondaire, ce soit vraiment le zombie. Je pense que ça va être plutôt ailleurs. Enfin bref, on verra ça. Peut-être qu'ils seront très contents de sortir, les gens.
Peut-être. Au mois prochain.
Au mois prochain, on se trouve un sujet. Merci Joël.
Merci Joël. Alors c'est Joël qui est la technique, on le salue bien.
Oui.
Et donc. Puis, et puis, j'espère que le mois prochain, on aura la même technicité et technique.
Ouais. À bientôt.
À bientôt.
Salut.
Ciao.